Joël blesse, qui est balzacienne et pas simplement balzacienne. Bon, bien entendu, vous avez tous lu son ouvrage Capital, c'est l'incarnation, quelque chose de, non pas de la cousine bête, mais du roman. Joël, précisément avec son foliothèque que vous avez tous en main sûrement. Et puis son ouvrage sur la lecture, Le double miroir de Stendhal à Proust, beau titre, très, très bel ouvrage, et donc qui, à partir de Balzac, a exploré d'autres contrées, parce que lorsqu'on est balzacien, on est forcément autre chose que balzacien. Et d'où précisément son titre qui renvoie à Doom, la dynamique des passions, mais qui a peut-être changé toujours. Oui, bon, à ce moment-là, je vous laisse le changer.
Donc, il a légèrement changé. Il s'agit maintenant de Bête ou l'énergétique narrative de la passion. Et je commencerai par une citation d'Hofmannsthal. Il brûle de passion, de vie et de sagesse. Le poète parle, en 1908, du roman La cousine bête et vient conforter une impression de lecture, celle de l'allant, de la vitalité extraordinaire de ce roman et de l'emportement de la narration. Et c'est pour approfondir et affiner cette impression que j'ai désiré revenir sur les dynamiques qui y sont à l'œuvre, en particulier sur la relation entre la dynamique narrative et la dynamique passionnelle. Par dynamique narrative, j'entends moins ce que la narratologie étudiait sous le terme de vitesse que les notions d'intrigue et de tension narrative qui, avec le couple nouement-dénouement, nous permettront d'observer la manière dont les récits s'orientent vers le lecteur pour entretenir l'intérêt romanesque. Cependant, j'ai d'abord voulu éclaircir la relation qu'établit Balzac entre la passion et le mouvement, ou l'énergie, en partant de sa conception plus générale de l'homme social et du rôle qui joue la pensée, car dans ce monde, celui de Balzac, où tout se tient, et où les failles, les lacunes et les contradictions elles-mêmes ont leur place, il m'a semblé utile de remonter aux fondations de l'édifice, cause et principe, dit Balzac, pour mieux comprendre la dynamique passionnelle depuis les mouvements qui la trahissent jusqu'aux déterminations et effets qui pèsent sur elle et autour d'elle. Donc dans un premier temps, je rappellerai, mais très rapidement, la conception énergétique qu'a Balzac de la passion, puis j'interrogerai les relations que l'anthropologue social qu'est Balzac établi entre passion et mouvement de l'homme en société et le mouvement de la société elle-même. Enfin, j'observerai la dynamique narrative spécifique de notre roman à travers les liens de l'intensité et du rythme narratif avec cette force ambivalente qu'est la passion. Donc d'abord, passion et énergétique, pensée et sentiment, masse de désir, ce sont des formulations de Balzac. La passion telle qu'il la définit amplifie et intensifie la dépense énergétique que sont la pensée, la volonté, la vie elle-même, à laquelle la peau de chagrin de Raphaël donne une matérialité symbolique et fantastique. On sait que Louis Lambert, par exemple, voit dans la volonté et la pensée des forces vives, citation, de puissance qui sont invisibles et tangibles, est-il écrit. Pour décrire cette puissance, Balzac use du langage de la thermodynamique, parle de fluide, d'électricité. Aussi, la passion brûlante est dans Louis Lambert, en particulier, une métaphore vive, quand elle fait irruption chez ce savant mystique qui cherche à concevoir l'unité de la matière et de la spiritualité, et qui en perdra la raison. La métaphore du feu donc, vaut pour la pensée, vaut aussi bien pour la passion, qui comprend la pensée et le sentiment, selon la formule de Balzac, et apparaît quand la haine métamorphose Lisbeth sous les yeux d'une madame Marnelle qui n'y comprend rien. On se souvient de la métaphore, certainement, parce qu'elle est frappante. Elle brûlait, la fumée de l'incendie qui la ravageait semblait passer par ses rides comme par autant de crevasses labourées par une éruption volcanique. Sans doute, la passion de la connaissance qui entraîne Lambert, là où la science et la folie se côtoient, cette pensée tuant le penseur, selon la formule balzacienne, est bien différente des passions de Bête ou de Hulot. Cependant, le geste de dépense de brûlage général, pour reprendre l'expression de Josepha, est analogue malgré la perte de grandeur tragique. L'axiome « la passion tuant le passionné », décalquant la pensée du penseur, sert en effet d'intrigue à plusieurs romans. L'excès et la dépense du libertin qui enthousiasme Josepha, c'est sardanapale, c'est grand, c'est complet, mettent en jeu une énergétique de la passion fondée sur le credo énoncé dès 1834 par Félix Davin et Balzac, qui lui tenait la plume en quelque sorte, comme visée des études philosophiques. Je le cite, c'est la première citation de l'exemple que je n'ai plus souligné. Il croit que toutes les idées, conséquemment tous les sentiments, sont des dissolvants, plus ou moins actifs. Il croit que la pensée augmentée de la force passagère que lui prête la passion et telle que la société l'a fait, devient nécessairement pour l'homme un poison, un poignard. Dès lors, le débat des Lumières entre la raison et la passion, qui était encore prédominant dans Steny, ou les erreurs philosophiques, en 1823, le premier essai romanesque de Balzac, n'est plus pertinent. Dans les romans de la Comédie humaine, la volonté et la pensée viennent remplacer, détrôner la raison. Ce qui peut seul dominer ou équilibrer la passion, c'est un autre usage de l'énergie, une économie ou un conflit de force. Pourquoi, en effet, la passion qui détruit physiquement et moralement le baron fait-elle resplendir Lisbeth quand sa haine est satisfaite? Le narrateur invoque l'opposition entre matière et abstraction, entre vie et mort. Certes, mais l'épanouissement de Beth résulte aussi d'une force contraire et monstrueuse, dit le texte, celle de l'économie d'énergie et la virginité. Je reprends la citation que vous avez donné tout à l'heure, la vie dont les forces sont économisées a pris chez l'individu vierge une qualité de résistance et de durée incalculable. Balzac joue donc des forces contradictoires que peuvent être les passions et des contradictions internes à la passion elle-même qui est, on le sait, ambivalente, destructrice certes, et ô combien dans le roman, mais aussi positive, créatrice et nécessaire à toute création. La première force qui a poussé Balzac à s'interroger sur cette puissance de la pensée, c'est bien la passion d'imagination et de création qui le tenait à sa table de travail dans la mansarde de la rue Lesdiguières. Et c'est faute de posséder cette force de la passion créatrice qui permet d'affronter l'exécution et ses travaux, selon la formule employée dans La Cousine Bette, que Steinbock n'est qu'un grand artiste par la parole, un critique d'art. La Cousine Bette est une étude de mœurs, cependant, et non une étude philosophique. Et la passion y est peinte dans sa diversité et la multiplicité de ses effets. On a pu y lire une sorte d'exemplum de l'analyse des passions, de roman expérimental, c'est la lecture de Zola. C'est une lecture réductrice, certes, mais qui souligne la porosité des frontières entre les catégories de la comédie humaine et la mobilité de sa classification, autant que la cohérence de la vision d'un monde où tout se tient, vision unitaire et multiple à la fois, puisque ces personnages sont situés dans un espace socio-historique traversé d'influences et d'antagonismes qui s'articulent chaque fois de manière neuve avec leur individualité et leur passion. Les possibilités de variation et par là de roman apparaissent alors infinies. J'en viens à mon deuxième point, la dynamique de la pathologie sociale. Bon, ce qu'invente Balzac, en effet, c'est le roman de la diversité de l'homme social mu par la passion. Il l'observe et il le décrit dans tous ses comportements, les plus quotidiens aux plus exceptionnels. Et c'est par le mouvement qui permet de lier pensée, physiologie, observation sociologique et anthropologie que le comportement passionné se distingue d'abord, car le mouvement est la dépense d'énergie la plus banale. En 1833, Balzac lui consacre un traité de science railleuse, qualifié de science des riens, la théorie de la démarche. Et il prend soin de lier démarche et pensée. Je cite la c'est la citation 3, le mouvement compris la pensée, action la plus pure de l'être humain, le verbe, traduction de ses pensées, puis la démarche et le geste, accomplissement plus ou moins passionné du verbe. Une même conception de la pensée régit la démarche et la passion, et tous deux relèvent de la loi selon laquelle tout mouvement est expression et dépense d'énergie, bien sûr. Or, la tentative de codification du mouvement faite par Balzac en 1833 se retrouve transposée et largement diffusée dans les romans. Si, en effet, la démarche et la physionomie du corps, selon la formule de la théorie de la démarche, et la pensée en action, elle peut devenir matière romanesque. La mise en mouvement des passionnés de la comédie de la Cousine Bette, pardon, transpose en gestuelle et en image la prodigieuse éloquence de la démarche et souligne son expressivité volontaire ou involontaire, et dans ce cas, le narrateur se charge très volontiers de traduire. On en trouvera cent exemples, j'en retiens un ou deux, qui font système, qui fait directement écho à la théorie de la démarche. Quand Valérie séduit Hulot par le mouvement onduleux de la robe auquel elle imprimait une grâce peut-être exagérée, sentant cet aphorisme qui détourne une réplique de Molière, donc, et qui vient de la théorie de la démarche, toute notre société est dans la jupe, c'est la cinquième, la sixième, je ne sais pas, je ne les ai pas numérotées. Toute notre société est dans la jupe, ôter la jupe à la femme, adieu la coquetterie, plus de passion. Dans la robe est toute sa puissance. La démarche coquette fait l'objet d'une mise en scène quasi dramaturgique de Valérie, séduisant Venceslas, cette fois, c'est plus tard, scandé par des jeux de scène plus éloquents, dit le texte, page 330, que mille fois que la déclaration la plus passionnée. Donc l'observateur qui est dit à ce moment-là physiologiste, excusez-moi, je touche cet objet, l'observateur physiologiste, ça marche encore ? Oui ?
Oui, ça marche.
Bon. L'observateur physiologiste, donc, qualifié comme tel, la compare à Phèdre, tout en soulignant l'artifice savant quand, avec ce mouvement de danseuse agitant sa robe, expression page 336, elle se retourne brusquement et reproduit la pose étudiée par laquelle elle avait déjà conquis Hulot. Si le mouvement et le geste sont paroles, ils peuvent en effet être mensonge et duperie. Ce que l'observateur ironique de la théorie de la démarche déchiffrait dans les nuances et diverses façons de se mouvoir se trouve ici dans le roman instrumentalisé par le puissant jeu de jupe de Valérie. Et il ne faut pas sous-estimer l'importance de telles observations de comportement. Elles exigent du génie aux yeux de Balzac, car l'écrivain véritable est pour lui celui qui associe des compétences incompatibles, la capacité d'analyse et d'observation d'une part, et la capacité d'expression. Je cite l'observation des phénomènes relatifs à l'homme, l'art qui doit en saisir les mouvements les plus cachés. Nous sommes dans la théorie de la démarche, bien sûr, mais vous avez la référence. L'étude du peu que cet être privilégié laisse involontairement deviner de sa conscience exige et une somme de génie et un rapetissement qui s'exclut. Donc celui qui peut et sait mettre en forme et en image saisissante cette philosophie et cette poésie, celui-là seul peut s'égaler à l'homme de génie. Nouvelle formule de la théorie de la démarche, l'homme de génie qui se fait le secrétaire de son époque, vous reconnaissez la formule de l'avant-propos, Balzac donne dans la théorie de la démarche un certain nombre d'exemples, Homère, Aristote, Tacite, Shakespeare, etc. Celui-là, seul, donc pour Balzac, sait en effet répondre à la question que pose l'avant-propos, comment plaire à la fois aux poètes, aux philosophes et aux masses, qui veulent la poésie et la philosophie sous de saisissantes images. Donc bien évidemment, la réponse est que Balzac lui-même est capable de faire cela. la dynamique active et dissolvante de la passion tient non seulement à une conception énergétique de l'homme, mais aussi aux facteurs aggravants qu'est la société. Je cite le préambule au traité des excitants modernes que vous avez en avant-dernière citation. L'état de société fait de nos besoins, de nos nécessités, de nos goûts, autant de plaies, autant de maladies, par les excès auxquels nous nous portons, portés par le développement que leur imprime la pensée. Donc, Balzac écrivait ceci en 1839, et on sait que Balzac se dit docteur et sciences sociales bien plus souvent que moraliste ou philosophe. Cette nouvelle science qu'il baptise aussi pathologie sociale, il envisage de la fonder et de l'illustrer tout à la fois. La dynamique des passions, dans la mesure où l'état social en détermine et en infléchit le cours et en aggrave les effets d'usure, est une pièce maîtresse de cette étude des mœurs de l'homme social. Sans doute, les passions relèvent-elles d'abord de la vie privée, mais le génie propre de Balzac est de révéler l'intrication étroite de celle-ci avec l'état social et de révéler leur puissance sous les apparences les plus cachées par l'hypocrisie ou derrière les valeurs juste milieu. Il existe des passions cependant plus sociales que d'autres, comme l'ambition, ou cette vanité que Crevel saura incarner jusque dans ses dernières paroles. Deux passions qui sont produites, selon la pensée de l'époque, par l'égalité née de la Révolution. Balzac révèle surtout les déterminations sociales et historiques qui pèsent sur des passions que l'on pourrait croire privées a priori. La jalousie de Bette pour sa cousine, ou la passion de Crevel pour Valérie, qui est née en fait du désir de posséder une femme du monde. La violence de la passion fait d'ailleurs éclater les limites entre vie privée et vie publique, et c'est bien le reproche du prince de Luxembourg, qui est, quand il a plus Hugo, de n'être plus qu'un tempérament. Car la passion génère un transfert incessant d'argent, je reviens sur des choses que vous avez déjà abordées, elle appauvrit les uns et enrichit les autres, elle redistribue les fortunes et les patrimoines, elle détruit ou accélère une carrière, donc pousse au vol ou à la concussion, et à des tours de force aussi, j'insisterai là-dessus, qui révèlent sa singulière puissance sur la société même. Singulière puissance, c'est une formule qui se trouve page 222. Ces ravages débordent donc largement la vie privée quand elle anéantit la position d'un directeur au ministère de la guerre, après avoir bouleversé sa famille et détruit son autorité paternelle, car pour qui voit dans la famille la cellule de base de la société, cette destruction, évidemment, est déjà politique. La mise en intrigue de la passion vengeresse de Bette montre aussi combien une passion privée peut être traversée par le social de part en part. Je reviens sur des choses bien connues, née de la superbe réussite de sa cousine, accentuée par ses origines paysannes, son caractère de sauvage, Nathalie en a parlé, sa jalousie n'est domptée que très provisoirement par les lois sociales. Balzac fait de sa volonté farouche de revanche une lecture en quelque sorte politique, lorsqu'il dit dès le début du roman, la sauvage Lorraine, quelque peu traîtresse, et dont le caractère peut expliquer la conduite du peuple pendant les révolutions. J'ai un peu transformé la citation. Est-ce que l'on peut dire qu'il s'agit d'une figure du peuple? C'est une vaste question, je n'aborderai pas ici, mais évidemment, c'est une lecture politique, néanmoins. Il fait ainsi écho à Madame de Staël, qui, en 1796, voyait dans la vengeance et la haine des passions qui alimentent la violence. Un fléau, je cite Madame de Staël, un fléau politique redoutable. La haine, pour elle, ne cessant de renouveler les révolutions, c'est aussi une formule de l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations. Et c'est aussi parce qu'il fait de la passion une lecture politique que, malgré ses scrupules, Victorin regarde comme un devoir de venger la société, la famille, et de demander compte à cette femme de tous ses crimes. Quand il lance Madame Nourrisson aux trousses de Valérie. L'exploitation des passions est donc un crime social tout autant que moral, et l'on sait que l'auteur de l'avant-propos voit dans la religion le plus grand élément d'ordre social. J'en viens à mon dernier point, la dynamique narrative de la passion. S'il existe un mouvement et une dynamique de la passion, dépense d'énergie en même temps qu'impulsion, sa mise en intrigue peut prendre des formes et des rythmes divers, antagoniques ou cumulatifs, progressifs ou brutaux. Des romans de la passion, de la connaissance ou de l'or, comme La recherche de l'absolu ou Eugénie Grandet, se développent selon un rythme qui s'attarde sur de longues expositions, c'est bien connu, puis description de la crise, pour ensuite se précipiter dans le drame vers le dénouement. Le rythme continuellement rapide de La cousine bête, qui ne laisse place qu'à quelques moments de répit, trompeur en général, est bien différent et justifie l'étude des liens entre dynamique narrative et dynamique des passions, qui me semble singulariser La cousine bête. La question peut se poser alors dans ces termes de tension narrative que j'évoquais au début, une notion qui relève de la pragmatique de la lecture pour interroger la manière dont le récit est reçu et anticipé. Dans quelle mesure le caractère fatal du dénouement, encore renforcé par les annonces du narrateur balzacien, est-il compatible avec l'intérêt romanesque ? Alors, on l'a dit, Balzac met en intrigue la passion détruisant le passionné. Il est donc dans cette logique que la passion libertine de Hulot, conjuguée à la vengeance de Bette et de Valérie, aboutisse à une catastrophe. Cette issue est maintes fois pressentie et annoncée, que ce soit par les intuitions des personnages passionnés, les anticipations des sages ou des malveillants, ou les indications proleptiques du narrateur. Sans doute, il faudrait distinguer entre la crédibilité variable des anticipations selon qu'elles relèvent du discours de tel personnage ou du narrateur. Disons simplement qu'en indiquant ainsi le futur de son récit, celui-ci construit une attente sans l'heure, et donc au mépris de la technique de suspens du feuilleton roman. Participe à cette même construction de l'attente la répétition compulsive des comportements passionnés qui reproduisent un même geste sur le mode burlesque ou tragique. Le retour crédule auprès de Valérie de chacun de ses amants, la multiplication des pères possibles et dupés, celle des jeunes ouvrières séduites par Hulot après sa fuite. Le récit reste donc en grande partie prévisible ou prédictible, et malgré cela, la tension narrative semble toujours relancée et l'intérêt romanesque avec elle. Alors, cela tient d'abord, il me semble, à ce que le processus inéluctable d'entropie est contrarié par des facteurs de tension narrative que sont des péripéties, et qui, elles, sont un procédé de feuilleton roman, qui lui donnent chaque fois un élan nouveau et lui font prendre un tournant inattendu, le retour de Montès ou la grossesse de Valérie, ou au contraire, un faux coup de théâtre préparé en fait discrètement par le narrateur, comme le flagrant délit d'adultère. Cela tient aussi au fait que la loi de dégradation générale semble s'inverser, se renverser, un renversement quelque sorte narratif, quand Victorin, ayant remplacé le père défaillant dans le rôle de chef de famille et étant intervenu avec le soutien des politiques, la mort des trois coupables semble annoncer une réparation, au moins relative, de leurs méfaits. Enfin, la répétition des comportements compulsifs suit une logique de variation et d'aggravation qui les rend en partie imprévisibles et entretient la curiosité, voire la surprise. L'ultime conquête de Hulot, qui tue la baronne, enfin directement au dénouement, n'est que partiellement anticipée et laisse l'interprétation ouverte. Faut-il voir là la preuve que la passion libidineuse peut vaincre là où la haine vengeresse a échoué? Il faut donc postuler une forme de suspense paradoxal, le lecteur attendant et s'attendant à ce qui va arriver, qu'il anticipe partiellement tout en se demandant comment ou sous quelle forme cela arrivera. L'intérêt devient qualitatif et attise la curiosité plutôt que la simple attente romanesque ou feuilletonesque. L'attente du lecteur est maintenue ouverte, l'attente du lecteur est maintenue ouverte, suspendue à la péripétie suivante, et d'autant mieux qu'elle porte aussi sur ses modalités et que le rythme du récit l'emporte rapidement. La passion semble en effet imposer son rythme à ce roman, un rythme, je disais, précipité, avec des effondrements et des recommencements, des parallélismes et des variations, voire des renversements. Le roman est emporté dans une logique d'accumulation et de renouvellement, de désir toujours renaissant et toujours empreint de la même énergie. Le rythme Ce rythme et cette logique sont pour Balzac ceux même de la passion, haine ou amour. Je redis cette magnifique citation que vous avez donnée tout à l'heure, car on hait de plus en plus, comme on aime tous les jours davantage quand on aime. Cette sorte d'axiome, la théorie des passions, en quelque sorte, intensifie la ligne de force de l'intrigue et lui impose un rythme de descente accélérée vers l'abîme. Je retiendrai quelques-uns de ces facteurs d'accélération du rythme narratif et je vais donc les énumérer. D'abord le recouvrement quasi parfait des effets de la passion sexuelle de Hulot et de la haine vengeresse de Bette. Et ce recouvrement est un redoublement. La haine se sert de la passion amoureuse pour détruire l'amoureux et ses proches dans une guerre où des deux ennemis, d'ailleurs l'un méconnaît l'autre jusqu'au bout, Lisbeth étant toujours déguisée en alliée du baron. Leur passion antagoniste forme un unique principe de dégradation dont les effets se cumulent. À partir du moment où la haine de Bette devient active et s'avante de tout ce que l'expérience de son amour trahi lui a appris, elle aggrave, élargit et accélère la destruction de la fortune, de la moralité et de la famille du baron Hulot. Selon cette même loi de renforcement et d'intensification, les passions réagissent les unes sur les autres, la haine de Bette suscitant celle de Valérie, la jalousie de Crevel suscitant la jalousie de Hulot. Facteur d'aggravation du conflit, ce redoublement donne au roman cette allure de cheval emballé, impossible à stopper. D'autre part, deuxième facteur d'accélération, le dessin général de l'intrigue procède par reprise avec variation de phases dramatiques séparées par des stases de latence. Il fait alterner les temps où s'accumulent péripéties et scènes fortes, des stases où s'installent les conditions qui provoquent les péripéties et qui font l'objet de récits rétrospectifs. La narration se concentre donc sur les périodes dramatiques, et ce sont elles qui lui donnent leur rythme. Celles où le drame se prépare, elles font l'objet d'ellipses et de récits synthétiques après coup, comme par exemple celui du ménage d'Hortense après le mariage. Un autre facteur d'accélération de l'histoire qui accentue l'impression d'accumulation d'événements tient à leur fréquente simultanéité. Alors je prendrai les choses un petit peu différemment de ce que vous disiez. Hulot rencontre Valérie, c'est une simultanéité des actions. Hulot rencontre Valérie avant même d'être rejeté par Josepha. Valérie attend Montès qui va l'empoisonner le jour même où Bette lui apprend que Venceslas la quitte pour rentrer chez lui, dans son foyer. Ou encore, Victorin lance son offensive contre Valérie le jour même où la baronne demande de l'aide à Josepha. Et le narrateur, chaque fois, de souligner cette simultanéité ou d'inscrire aussi dans des indications temporelles la succession extrêmement rapprochée des actions. Dernier facteur d'accélération, ce serait le jeu nouement-dénouement, qui me semble le facteur d'accélération sans doute le plus important, car la mise en intrigue multiplie les dénouements partiels et donc la précipitation des événements, tel celui qui clôt l'exposition comme un roman ordinaire et sur le rythme précipité d'un dénouement balzacien typique, enfin selon le topos balzacien. C'est rétrospectivement qu'on en connaîtra les circonstances. Ce premier dénouement est aussi en même temps un recommencement, un nouement. Hulot a amorcé la nouvelle conquête et Hortense a trouvé un mari en volant son amoureux à Lisbeth, donc en provoquant déchaînement, la métamorphose spectaculaire de Lisbeth, qui va, avant même l'aboutissement du dénouement, donner l'impulsion rythmique décisive à tout ce qui suit quand l'inoffensive chèvre devient mohican ou volcan. Elle fut la haine et la vengeance sans transaction. Et Balzac de souligner, avec la plénitude, la perfection et la rapidité des conceptions chez des natures vierges, l'ambivalence de la passion, qui est aussi positive et créative dans sa négativité. L'impulsion, je dis, est décisive, c'est sa haine qui va manier l'arme qu'est Valérie et relancer sans cesse la démolition à coup pressé, dit le texte de la famille Hulot. Donc chevauchement des séquences, précipitation des solutions apportées donne une accélération brusque à l'histoire. Donne chaque fois une accélération brusque à l'histoire et à son récit. une nouvelle accumulation d'actions dramatiques dénoue le drame central, avec la précipitation imposée par les menaces qui pèsent sur le baron libertin, adultère puis voleur de l'État, enfin responsable de la mort de son oncle et de son frère. Là, il s'agit d'une précipitation au niveau de l'histoire. Hein, tout doit aller très vite, si l'on veut sauver la vie. Selon le jeu nouement-dénouement déjà rencontré, l'intrigue est relancée immédiatement, enfin en même temps, simultanément, par le regain de haine de Lisbeth, dont la vengeance est contrecarrée par ce dénouement. Haine qui, d'une part, retarde le retour plusieurs fois annoncé du père prodigue, et en même temps, encore, on revient sur la simultanéité d'une autre manière, dont l'excès suscite la méfiance et l'entreprise, la méfiance de Victorin et l'entreprise punitive contre Valérie. Bon, c'est le dernier dénouement qui enchaîne très vite et de façon plus prévisible cette fois les châtiments qui frappent les méchants, même s'ils s'étirent ensuite avant le renversement final et la mort d'Adieu. Donc tous les dénouements partiels adoptent le rythme accéléré du dénouement balzacien ordinaire, je dirais, conforme à l'énergétique passionnelle. La passion est aussi inventive de moyens de s'assouvir et d'intrigue que destructrice. Il faudrait donc, je pense, emprunter à Balzac le verbe harmonier, qui me semble décrire excellemment cet accord trouvé entre le rythme du récit et les passions qui meuvent ces personnages. La forme narrative s'est en quelque sorte adaptée magnifiquement à sa matière, même violence, même forme, même allure. C'est-à-dire que le roman brûle de passion et à la fois dans le sens d'une accélération de la chute finale et d'une prodigieuse vitalité narrative. Pour conclure, une anthropologie sociale des passions est ainsi mise en intrigue et en image dans un roman qui donne à penser plus encore qu'il ne pense. En lisant La cousine bête dans la continuité de la veine philosophique ou analytique de la comédie humaine, je n'ai pas cherché à en souligner la dimension philosophique, mais à donner sens à cette forme qu'est le rythme narratif en le liant au monde balzacien de la passion et en premier lieu au projet d'anthropologie sociale dont Balzac a dispersé des éléments dans toute son œuvre. C'est une façon de postuler que les théories de Balzac ne sont pas contradictoires avec ce que disent les romans, mais les informent et les sous-tendent. Mais évidemment, ce sont toujours les romans qui pensent le plus loin, et on pourrait dire de façon agrammaticale, qui pensent le plus complexe, qui se penchent sur l'abîme, sans toise ni vertige, pour reprendre la formule de la théorie de la démarche, pour en extraire l'œuvre. Je vous remercie.
Merci, Joël, qui est venu de loin d'Aix-Marseille, puisque nous sommes à Aix-Marseille pour traiter un sujet absolument redoutable, qui est l'articulation entre une thématique et une poétique, et justement entre les